à tous de l'aider. Attention pour décompte final. 3, 2, unité, feu.
À la recherche de la Spoutnik Terre, c'est votre capsule scientifico-spatiale propulsée par les ondes de Radio U chaque deuxième mardi du mois à 19h. Ici, pas de mathématiques et d'explications alambiquées. Juste une balade dans l'espace et le temps, à bord d'une capsule aussi charmante que récalcitrante, à la poursuite des sondes spatiales les plus aventureuses du système solaire, et à la découverte de paysages qui sortent de l'ordinaire.
Tout fonctionne ?
On est en ligne ?
Alors, dans ce cas, c'est reparti ! Bienvenue Spoutnikterien, à bord de notre capsule spatiale propulsée par les ondes de la radiophonie avec un grand U. Après un redémarrage disons compliqué, votre concentré d'espace et d'exploration revient pour une nouvelle saison toujours fièrement propulsée par les ondes du 101.1, avec à la carte une recette inchangée aux meilleures adresses du système solaire. La dernière fois, nous nous étions quittés en orbite autour de Titan, à la poursuite du décodeur qui se cache très probablement dans la ceinture de Kuiper. Grâce à lui, nous devrions être en mesure de localiser la source d'émission du dangereux signal diffusant du sélénium. Mais la ceinture de Kuiper, c'est loin. Vraiment très très loin. Et vous vous doutez évidemment que faire tout ce chemin sans faire un crochet touristique serait une infraction d'ordre galactique. Alors, chers passagers, clipsez vos ceintures et sortez vos pop-corns, car aujourd'hui, on s'attaque à un dossier hors norme. Un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et de papier, et qui, au détour d'une conversation d'initiés, peut parfois se retrouver exhumé. Les plus perspicaces auront déjà trouvé la réponse pendant que je paramétrerai notre trajectoire vers l'objet désiré. Ce que je vous propose, c'est que pendant notre trajet, on fasse un léger retour dans le passé. Nous sommes dans la première moitié du XXe siècle, aux États-Unis. Nous allons suivre Clyde William Tombaugh. On va l'appeler Clyde par la suite parce que déjà c'est moins long et ensuite parce que ça lui donne un petit côté cow-boy et moi j'aime bien ça. Clyde donc est né en 1906 dans la brave ville de Strader dans l'Illinois, dans la région des Grands Lacs nord-américains. Il est fils de cultivateur et passe donc beaucoup de temps à l'extérieur. L'environnement est idéal pour la culture du maïs, mais également pour l'observation astronomique. Loin de toute ville, le jeune Clyde apprend donc avec son père et son oncle à observer les étoiles, à les reconnaître et à les lire. À la fin des années 20, il construit même son propre télescope avec des pièces d'engins agricoles et d'automobiles. Il passe alors de longues nuits à observer le ciel et en particulier la planète Mars, dont il réalise des croquis qu'il envoie à l'observatoire Lowell dans l'Arizona. L'observatoire Lowell, c'est loin, c'est de l'autre côté du pays, à 2546 km de sa petite bourgade. Il y avait bien des observatoires plus proches, mais le travail de l'observatoire fondé par Percival Lowell est particulièrement intéressant. Percival Lowell est un homme de la génération précédant celle de Clyde. Il est mort en 1916 à l'âge de 60 ans. Il était passionné par l'étude de Mars et était un fervent défenseur de la théorie des canaux. Une théorie symbole d'une époque où une planète Mars peuplée d'autres hommes était encore débattue et sur laquelle nous reviendrons un jour dans un autre épisode. Lorsque Clyde envoie ses croquis en 1928, l'observatoire est toujours en activité. Bien sûr, il a une solide expérience en ce qui concerne l'observation de la planète rouge. Clyde espère donc avoir un retour scientifique sur ses croquis, dans l'espoir de pouvoir les améliorer. Mais c'est bien plus qu'il va trouver. « Vesto Slipher est, en 1928, le directeur de l'observatoire, et il est impressionné par les travaux de Clyde. Il lui propose donc un emploi, aussitôt vous vous en doutez, accepté par notre scientifique en herbe. Clyde part donc pour l'Arizona, direction Mars Hill, littéralement la colline de Mars, sur laquelle est installé l'observatoire. Son travail est de rechercher la planète X à l'aide d'un nouveau télescope fraîchement installé par l'observatoire. La planète X est une théorie proposée par Percival Lowell pour expliquer des perturbations orbitales observées sur la trajectoire d'Uranus et Neptune. Avec cette théorie, Lowell souhaitait utiliser la même méthode que celle utilisée pour découvrir Neptune quelques décennies auparavant, Neptune constituant alors la dernière planète du système solaire. Selon ses calculs, une planète existerait au-delà de Neptune, orbiterait le Soleil en 327 ans, aurait une masse d'environ 2/5 de celle de Neptune. Elle serait par ailleurs éloignée de 47 unités astronomiques, soit 47 fois la distance Terre-Soleil. Bon, disons-le tout de suite, Lowell de son vivant ne trouva rien. Mais ses recherches furent reprises après sa mort par ses successeurs, et le nouveau télescope confié aux mains de Clyde au début des années 30 suscite donc un nouvel espoir. Pour s'aider dans ses recherches, Clyde doit utiliser un appareil nommé comparateur de clignotement. Cela va lui permettre de comparer des photographies issues d'une même région, mais prises à plusieurs jours d'intervalle. Le but est de trouver un point mobile à l'endroit prédit par les calculs de Lowell, qui serait donc la fameuse planète X. L'idée derrière ce mode opératoire est que sur une échelle de temps courte, disons de quelques jours, les étoiles sont fixes dans le ciel, et donc d'une photo par rapport à l'autre. Un point mobile correspond donc à un objet proche de la Terre, et si le point est assez gros, il peut correspondre à une planète jusqu'alors inconnue. Plusieurs séries de clichés sont donc prises au travers de différentes campagnes, et ce sont les clichés pris entre le 23 et le 29 janvier 1930 qui permettent de révéler un point, une irrégularité, lors d'une analyse quelques semaines plus tard. Après quelques vérifications d'usage, l'équipe en est certaine, ce point est une planète et elle est inconnue. Le directeur de l'observatoire saute donc sur son télégraphe pour envoyer la nouvelle au Harvard College Observatory le 13 mars 1930, nouvelle rendue publique dans la foulée le lendemain par l'UAI, l'Union Astronomique Internationale. Retenez bien son nom, on y reviendra dans quelques minutes. Clyde a donc mis la main sur la planète X, mais l'a-t-il vraiment ? Car si Clyde a bel et bien mis la main sur une planète, celle-ci est trop petite, trop lointaine et de trop faible masse pour être à l'origine des perturbations sur les orbites d'Uranus et Neptune. Et peu après la découverte, il devient rapidement clair que la planète découverte n'est pas la planète X recherchée. Cette déconvenue n'empêche cependant pas la bande d'astronomes de nommer leur découverte en référence aux dieux romains des enfers reclus au fond du monde connu. Ils en profitent au passage pour glisser une petite référence à leur ancien mentor, Percival Lowell, dont les initiales forment les deux premières lettres d'un nom. Ce nom, c'est Pluton. Pour en revenir à la planète X, il s'avérera bien plus tard qu'elle n'était en fait qu'un mythe, une cause perdue, car les perturbations orbitales d'Uranus et Neptune étaient en fait dues à des incertitudes sur leur masse, causées par l'imprécision des moyens de mesure de l'époque. Clyde William Tombaugh découvre donc au début des années 1930 Pluton, la désormais 9e planète du système solaire telle que définie par l'Union Astronomique Internationale. Vous vous souvenez peut-être que lors de notre dernier voyage, nous avions croisé le chemin de Voyageur 1 en 1980. La sonde, et surtout son pilote, la NASA, avait dû choisir d'explorer Titan ou Pluton avant de prendre la route vers un voyage lointain en dehors du système solaire. La NASA avait alors choisi Titan, qui paraissait plus intéressante de prime abord. Bon, on l'a vu dans l'épisode précédent, le choix de Titan se révélera infructueux, mais on ne peut pas vraiment en vouloir à la NASA, car le choix avait de quoi laisser pantois. D'un côté, Titan, l'une des plus grosses lunes du système solaire, avec une atmosphère dense, des liquides à sa surface, et de l'autre, Pluton, une toute petite planète, lointaine, froide et qui ressemble vaguement à la lune de loin. Allez, allumons nos instruments pour mieux comprendre. Pluton est un petit corps de 2372 km de diamètre. C'est plus petit que Titan, et aussi plus petit que la Lune par exemple. Pluton tourne également autour du Soleil en 248 années terrestres. Cela traduit son éloignement par rapport au Soleil, en moyenne 40 unités astronomiques, soit 40 fois la distance séparant la Terre du Soleil. Neptune, la planète précédant Pluton, est-elle située à 30 unités astronomiques? Bref, je ne vous fais pas un dessin, Pluton c'est loin. Et c'est justement là que le bât blesse, car le faible intérêt pour Pluton et la distance colossale qui nous en sépare constituent un sacré frein à un quelconque projet d'exploration. Il faut aussi savoir qu'à la fin de la séquence principale du programme Voyager, toutes les planètes du système solaire hormis Pluton ont été au moins survolées et photographiées. La fin des années 80 signe également la fin du premier âge d'or de l'exploration spatiale. Les grands exploits semblent réalisés, la guerre froide ralentit et le grand public se désintéresse de la cause. Bref, pas grand monde veut mettre d'énergie et surtout pas mettre beaucoup d'argent dans une mission coûteuse, lointaine, pour un retour scientifique et médiatique incertain. Et si plusieurs missions sont imaginées notamment dans les années 90, aucune ne parviendra à sortir de la planche à dessin. Il faudra attendre les années 2000 pour qu'enfin on se décide à vouloir lever le voile sur la petite dernière du système solaire, avec une sonde au nom évocateur, New Horizons pour Nouveaux Horizons.
Ah, ça y est, on y est. Vérifions un truc.
Non mais c'est complètement dingue ça! Même jusqu'ici on le reçoit!
Waouh!
C'est décidément le signal le plus puissant de tout le système solaire! Je vais lancer un balayage de la surface, histoire de pouvoir trouver des traces de sa base. Tiens, les détecteurs ont trouvé quelque chose. On va s'en approcher et voir à quoi ça correspond. J'imagine qu'on devrait se retrouver face à une base similaire à celle de Titan. Si c'est le cas, on utilisera le même mode opératoire. En attendant, intéressons-nous à ce que l'on a sous nos pieds, à savoir Pluton et ses nouveaux horizons. Car si les nouveaux horizons sont censés passer par l'exploration in situ de la planète par une sonde spatiale, c'est bien sur Terre, dans un amphithéâtre, que l'histoire de Pluton va être chamboulée. Nous sommes alors le 24 avril 2006, au 26e congrès de l'Union Astronomique Internationale, à Prague, en République Tchèque. Si ce type de congrès est d'ordinaire plutôt feutré et tranquille, la tension est clairement de la partie en ce 24 avril. En effet, depuis quelques années, avec l'amélioration des méthodes d'observation, on détecte de nombreux objets transneptuniens, c'est-à-dire des objets qui orbitent au-delà de l'orbite de Neptune. Depuis le début des années 2000, leur liste s'allonge, leur masse est problématique et leur taille embarrassante. On les nomme Varuna en 2000, Ixion en 2001, Quawar en 2002, Omea en 2004, Eris en 2005. Parmi eux, Eris est le plus troublant, car il semble être à première vue plus grand et plus massif que Pluton. Et ça, ça pose problème, car cela s'ajoute au fait que ces objets ont pour la plupart des paramètres orbitaux similaires à ceux de Pluton, à savoir des orbites elliptiques, voire très elliptiques. La question est donc la suivante. Doit-on ajouter les plus massifs de ces objets découverts sur la liste des planètes du système solaire? La question est épineuse, car les progrès en termes d'observation conduiront à n'en pas douter la liste de ces objets à s'allonger. Et donc par là même, la nouvelle future liste des planètes du système solaire. Or, on se retrouverait avec une liste de planètes dont les membres ne partagent pas grand-chose en commun. Par exemple, Eris ne partage pas grand-chose avec Jupiter, hormis le fait qu'elles tournent toutes les deux autour du Soleil. C'est un peu comme si on vous demandait de faire la liste des objets qui possèdent un moteur. Vous pourriez mettre dedans un tank et une mobylette, mais il serait plus judicieux de faire deux listes, une avec le matériel militaire et une autre avec les deux roues légers. La question est donc également de savoir s'il faut changer la définition d'une planète, et donc de ranger les objets comme Eris dans une nouvelle catégorie. Le problème aurait probablement été vite réglé si tous les constats applicables à Eris ne l'auraient pas été également à Pluton. À la question « doit-on créer une nouvelle classe d'objets pour y ranger des corps semblables à Eris ?» s'ajoute alors la sulfureuse question « doit-on retirer à Pluton son statut de planète ?» Et là, ça peut paraître un détail pour vous, mais pour les Américains surtout, ça veut dire beaucoup, car Pluton est la seule planète à avoir été découverte par un Américain. Ce 24 avril 2004, à Prague, après de longs débats et un vote créateur d'autres débats, Pluton est alors rétrogradé au statut de planète naine. L'Union astronomique justifiant ce choix en statuant qu'une planète doit tourner autour du Soleil, être relativement sphérique et surtout avoir le champ libre sur son orbite. C'est ce dernier point qui exclut Pluton du club auquel elle appartenait depuis sa découverte. En effet, Pluton, comme les autres planètes naines, tourne autour du Soleil et est relativement sphérique. Elle n'a en revanche pas nettoyé son orbite qu'elle partage par exemple avec des astéroïdes ou des comètes. Un manque de nettoyage qui coûte à Pluton son titre de planète et qui conduit à un ajustement sémantique de la mission de New Horizons. La sonde a en effet décollé en janvier 2006 pour explorer la planète Pluton. Quelques mois à une conférence et un vote troublé plus tard, elle se retrouve donc à devoir explorer la plus célèbre des planètes naines, à savoir Pluton. L'ordinateur a localisé la base. Même configuration que sur Titan, pas étonnant. La démarche sera donc la même. On se pose et on y va à pied. Allez hop, c'est parti! New Horizons est une petite sonde de 478 kg, de forme triangulaire et d'une taille comparable à celle d'un gros piano. Elle a été conçue dans le cadre du programme New Frontier de la NASA, le programme des missions à coût modéré. Elle embarque 6 instruments qui constituent les 30 kg de sa charge utile. Comme pour la plupart des missions qui s'aventurent au-delà de l'orbite de Jupiter, la sonde est alimentée par un RTG, ce type de pile nucléaire que nous avions déjà croisé sur Cassini. La sonde est par ailleurs un poids-plume comparé aux presque 6 tonnes de Cassini. Pourtant, la NASA choisit pour la propulser en orbite la plus puissante de ses fusées, l'Atlas V. L'occasion de pulvériser un record de vitesse, mais surtout de pouvoir atteindre Pluton en un temps raisonnable. Les performances d'un RTG ayant tendance à décliner au fil du temps, l'objectif est d'atteindre Pluton avec un générateur pleinement fonctionnel. New Horizons croise donc l'orbite de Saturne en 2 ans et demi. Cela peut paraître long, mais dites-vous bien que Cassini a réalisé le même trajet en 7 ans et demi. Lorsque New Horizons arrive en approche de Pluton au bout de 9 années de voyage, tout doit aller très vite, car la sonde ultra légère n'a pas la capacité de s'insérer en orbite. Pour freiner et se mettre en orbite, la sonde aurait besoin de beaucoup plus de carburant, et du carburant, c'est du poids qui est incompatible avec l'architecture de la mission. La sonde embarque donc le strict nécessaire pour corriger sa trajectoire et s'offrir un survol grandiose de l'ex-9ème planète. Lorsque la sonde est en approche de sa cible, les espérances du grand public ne sont pas bien grandes. Si loin du soleil, l'imaginaire du caillou mort et désolé a décidément le cuir solide. À l'arrivée des premières images, force est de constater que la surprise est de taille, car aucun cratère n'est à observer à l'horizon, et ce sont des montagnes de plusieurs kilomètres de haut qui s'offrent aux caméras de New Horizons. L'absence de cratère est par ailleurs un signe d'une activité pas si ancienne, et donc d'une planète pas si morte que prévu. regardée par les hublots. Des montagnes de glace d'eau et un immense glacier. C'est Sputnik Planum, le plus grand glacier de tout le système solaire, et sur lequel se sont déposés grain après grain des dunes de méthane qui s'érodent au gré de vents très faibles d'une atmosphère incertaine. L'atmosphère, justement. On a longtemps pensé qu'à cause de son orbite très elliptique, l'atmosphère de Pluton n'était pas constante. On pensait qu'elle apparaissait lorsque la planète naine se rapprochait du Soleil et qu'elle disparaissait lorsqu'elle s'en éloignait beaucoup. Sans totalement réfuter cette théorie, New Horizons a conduit à au moins la réajuster. Car la sonde a montré que l'atmosphère de Pluton était bien plus épaisse que prévu, avec des brumes jusqu'à 100 km au-dessus du sol contre 30 prévus au départ. Cette atmosphère, comme celle de Mars, s'érode sous les coups de butoir du vent solaire, mais est constamment renouvelée par la sublimation des glaces à la surface de Pluton. Un processus qui a fait perdre 6 km de diamètre à la planète depuis sa formation. Cette apparente activité planétaire n'est pas sans poser des questions. Comment un si petit corps peut-il conserver une activité géologique si loin du Soleil et sans force de marée significative quand des planètes plus massives, comme Mars, semblent en être privées ? New Horizons n'apporte pas la réponse, mais cette dernière est peut-être à chercher dans la chaleur résiduelle du cœur de la planète, ou pourquoi pas dans un océan souterrain. Un élément de réponse pourrait également se situer dans le couple que Pluton forme avec Charon, son satellite principal. Tellement principal d'ailleurs qu'on considère Pluton et Charon comme un système double, deux planètes se tournant autour. Cette particularité, unique dans le système solaire, pourrait être à la source de mécanismes qui n'ont pas encore été mis en lumière. Ce couple, pas banal, s'est même gravé un cœur sur la poitrine. Tambo Regio, nommé en référence à Clyde dont nous parlions au début du voyage, est une région à la surface de Pluton, qui, vu de l'espace, forme un immense cœur blanc au milieu d'une zone plus foncée. Si vous en doutiez encore, l'espace est vraiment rempli de merveilles. Avec autant de poésie et plus de fantaisie, un des pôles de Charon a été nommé Mordor, en raison de sa couleur rougeâtre très sombre en comparaison du reste du satellite qui est plutôt clair. Cette couleur pourrait être due à une fine couche de matériaux déposée à la surface de Charon et résultant d'un passé peut-être plus mouvementé fait de collisions titanesques qui pourraient être également à l'origine des autres satellites mineurs de Pluton que sont Styx, Nix, Kerberos et Hydre. La découverte la plus surprenante de New Horizons concerne très probablement les traces d'écoulement liquide observées de ça de là à la surface de la planète naine. Des anciens lits de rivière ou des lacs asséchés qui auraient donné à Pluton un tout autre visage en un tout autre temps où elle aurait accueilli de l'azote liquide à sa surface. Un temps peut-être pas entièrement révolu puisqu'il pourrait dépendre de l'inclinaison de Pluton et de son éloignement au Soleil. Si sur Terre, ces paramètres ont très peu de variations, ils évoluent plus largement sur Pluton en fonction du temps. Ainsi, peut-être un jour, les conditions seront à nouveau réunies pour voir sur Pluton couler des rivières d'azote. Loin de nous avoir fait découvrir un monde mort, New Horizons a mis à jour un monde qui semble avoir un passé, mais aussi un avenir. La sonde a répondu à de nombreuses interrogations, et comme toujours en science, en a posé d'encore plus nombreuses, avec en première ligne, d'où Pluton tire-t-elle l'énergie qui la maintient active ? La réponse à cette dernière passant certainement par l'envoi d'une nouvelle sonde plus complète que New Horizons et qui aurait la capacité de se mettre en orbite. Un projet qui n'est aujourd'hui dans les cartons d'aucune agence spatiale tant il requiert d'importants moyens aussi bien financiers que techniques. L'envoi d'une sonde complexe nécessitant la mise au point d'une mission d'une complexité très importante pour surmonter les défis qui lui font face. Distance, masse, temps, énergie et communication sont autant de points à prendre en compte quand on s'aventure si loin dans le système solaire. Aussi, si loin du Soleil et de la Terre, opérer une sonde est encore aujourd'hui un exercice technique incroyable. Si New Horizons n'aura pas de descendance de sitôt, c'est peut-être aussi parce que sa mission n'est pas encore terminée. Fidèle à son nom, le robot au poids plume parcourt toujours les confins du système solaire à la découverte de la ceinture de Kuiper. Une zone en partie analogue à la ceinture d'astéroïdes, mais située au-delà de l'orbite de Neptune, et à laquelle Pluton appartient en tant que représentante principale. La ceinture représenterait le principal réservoir de comètes et son étude est donc de première importance. C'est dans ce contexte qu'après le survol de Pluton, New Horizons s'est mis en chasse de l'Ultima Thule, un astéroïde nommé en référence au nom du Groenland pendant l'ère médiévale et qui représentait alors le bout du monde. Si le bout du monde est aujourd'hui dans la ceinture de Kuiper, l'étrangeté qui le caractérisait au Moyen-Âge ne s'est pas évaporée. Ultima Thule est en effet un astéroïde double ressemblant de face à un bonhomme de neige et de côté à deux crêpes à cheval l'une sur l'autre. Une configuration pour le moins inédite dans nos catalogues d'astéroïdes pourtant déjà bien remplis. Enfin, et c'est peut-être là le principal héritage de New Horizons, la sonde aura permis de tordre le cou à l'idée reçue selon laquelle Pluton était, disons-le, une planète toute nulle. Une façon de montrer par l'expérience que l'exploration et la science sont sûrement toujours plus excitantes et passionnantes quand elles proviennent des endroits où on s'y attend le moins, avec des résultats ouvrant de nouvelles perspectives scientifiques et aussi, pourquoi pas, intellectuelles.
Tiens, mais qu'est-ce qui lui arrive? Regardons ça. Alors... Oh là, je le sens mal. Jusqu'ici, tout va bien.
Oh non! Je ne contrôle plus le vaisseau! On a perdu tous les contrôles! Altitude 10 000 mètres! Commande auxiliaire non opérante! Redémarrage du système! Altitude 5 000 mètres! Toujours aucune réponse. Oh là là, on est mal, on a récupéré quelques systèmes, mais la propulsion semble être partie en vacances pour de bon cette fois. 3000 mètres. Bon sang, c'est pas du but, ça serait quand même dommage de se planter maintenant. Ah, nom de Dieu, réponds, espèce de mobilette de l'espace. 1500 mètres. Vas-y, redémarre. 750 mètres. Oui! Allumage des propulseurs. 10 mètres, déploiement des jambes d'atterrissage.
0 mètres. Posé. Ce tas de ferraille va bien finir par nous tuer, je vais avancer l'Indien. Bon allez, sortons de là.
Je vous attendais.
Et moi, je vous cherchais. Vous êtes le décodeur ?
Exa.
On m'a dit que vous étiez le seul à pouvoir localiser le signal.
Venez avec moi. Ce que vous cherchez a une origine ancienne. Ça ne sera pas facile à débrancher.
D'où vient-il ?
Oh, personne ne le sait vraiment. Mais il est aujourd'hui protégé par les Stélénites qui les protègent comme une divinité. Et surtout, diffuse son signal à travers l'espace et le temps. Jadis, le signal ne pouvait être perçu que par des appareils particuliers, comme votre capsule.
Particulier, je vous assure, elle n'a pas grand-chose de spécial, c'est juste un tas de ferrailles.
Oh, vous ignorez bien des choses, visiblement, mais ce sera pour une autre fois. Vous devez vous rendre sur la Lune pour arrêter le signal. Je ne peux malheureusement pas vous aider davantage, mais prenez tout de même ceci.
Je vous remercie, qu'est-ce que c'est ?
De quoi améliorer vos défenses et vos systèmes de propulsion, vous en avez besoin.
Ah oui, là c'est pas de refus, hein. Vous n'auriez pas quelque chose pour l'armement par hasard ?
Non ! Un chevalier du bien ne doit avoir pour seule arme que son courage et sa détermination.
Ah, même pas un petit rayon laser de la mort qui tue ? Non, bon, d'accord. Mais merci pour le proverbe, en tout cas, c'était beau.
Partez maintenant, et n'oubliez pas, le chemin le plus direct n'est pas nécessairement une source de succès.
Étrange, ce vieux. Bref, la Lune, c'est donc là que se cache la source du signal. Qui l'eût cru ? Si près de la Terre, et si bien caché à la vue de tous. Et détruire le récepteur. La partie ne risque pas d'être facile. Mais bon, j'ai au moins le trajet pour trouver un plan. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par
le trajet le plus direct n'est pas nécessairement une source de succès.
Enfin, je l'imite mal. Bref, on verra. Mettons-nous en route. Et puis bon, allumons ça. De toute façon, j'en aurai plein les oreilles en arrivant là-bas, donc autant s'y habituer sur le trajet.
Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel.
J'entre nos coordonnées. L'aventure vous attend. Pour écouter ou réécouter cet épisode ou les précédents, rendez-vous sur le site de Radio U, radio-u.org, dans la section podcast. Vous trouverez, dans l'onglet réservé à la recherche de la Spoutnitaire, toutes les émissions avec en bonus quelques précisions.